Le livre, ou le passage plutôt que nous allons commenter, est tiré du livre d'Isaïe, au chapitre 25, versets 6 à 9. En voici la lecture. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Alors ce texte est intéressant de nouveau parce qu'il nous permet une interprétation multiple en suivant les interprétations classiques de l'Église. La première interprétation est utile, c'est l'interprétation la plus moderne, celle qu'on appelle l'analyse historico-critique. Elle nous permet de découvrir un texte à la lumière de son contexte historique. Et on essaye de voir quelle était l'intention de l'auteur au moment où il a écrit le texte. Parce que l'intention de l'auteur rejoint aussi, bien sûr, l'intention de l'esprit qui a inspiré l'auteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Isaïe est un livre, est une espèce de compilation, mais qui a été très bien fait, avec une unité réelle, mais tout le livre n'est pas attribué à Isaïe, et du chapitre 1 au chapitre 39, on attribue généralement cette partie du livre, qui compte 66 chapitres, au prophète Isaïe lui-même. Mais à l'intérieur de cette section du livre, 1 à 39, il y a des chapitres plus tardifs qui ont probablement été écrits bien plus tard par, bien sûr, des auteurs différents d'Isaïe. Et le chapitre 25 en est un exemple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand bien même Isaïe aurait écrit ce passage, Isaïe a vécu à peu près à l'époque où le royaume du Nord est tombé. Donc effectivement, Isaïe aurait pu avoir en tête le royaume du Nord et prophétiser ce texte. Mais plus probablement, ce texte a été écrit, disons, pendant la période de l'exil, ou alors post-exilique, entre 587 et 537, ça c'est l'exil, ou peut-être après. Quoi qu'il en soit, il est évident que pour l'auteur, nous avons ici une référence à un moment difficile de la vie d'Israël, probablement l'exil, donc comme je disais, ou à la rigueur, la chute du royaume du Nord. Et ici, le peuple d'Israël est exilé, probablement, donc, comme j'ai dit, à Babylone. Et le prophète promet qu'un jour, ils reviendront sur leur montagne, la montagne où se trouve Jérusalem, la colline de Sion. Et là, tous les peuples viendront. Effectivement, à Babylone, Israël, le peuple juif, a eu l'occasion de voir, d'avoir une vision plus universelle des choses, et c'est vraiment rendu compte que leur Dieu était Dieu tout court. Donc c'est pour ça que dans le livre d'Isaïe, on trouve beaucoup cette vision d'un Dieu universel, ce qui explique dans ce texte qu'on parle des nations qui viendront, etc. Oui, il couvrait toutes les nations, etc. C'est quelque chose d'assez typique d'Isaïe, qui n'existait pas beaucoup avant lui. Avant donc cette prise de conscience du peuple juif de l'universalité de sa religion et de son Dieu, qui est tout simplement le Dieu de tout Israël et de l'humanité tout entière. Alors maintenant, une fois qu'on a un peu dégrossi l'histoire, le contexte historique, on ne peut pas se contenter de ça. Bien sûr, ici, on voit ce Dieu libérateur donc du peuple juif qui lui promet qu'au-delà de sa libération, de son retour sur la terre promise, la terre d'Israël, c'est toutes les nations qui viendront. Donc, au-delà d'une libération attendue, la libération de Dieu va encore plus loin. Maintenant, si nous passons à, disons, des interprétations plus spirituelles, parce que là, nous venons de faire, disons, ce qui s'appelle l'interprétation historique, à l'aide de la méthode historico-critique, et si nous prenons l'interprétation, disons, allégorique qui est centrée sur le Christ, nous voyons bien ici que cette libération correspond à la venue du Christ. Le Christ est celui qui justement va permettre cette universalité de la foi. Le Christ est celui qui va permettre la véritable libération et le salut. C'est important dans nos vies que nous nous rendions vraiment compte que le Christ, c'est la clé de tout, la clé de notre libération, celui qui fait vraiment que notre Dieu va prendre une place concrète dans notre vie et va pouvoir agir concrètement. Jésus, c'est Dieu qui fait irruption dans la vie des hommes, c'est Dieu qui fait irruption dans notre vie. Et tant que nous n'aurons pas une relation personnelle avec le Christ, eh bien Dieu restera comme un Dieu lointain pendant que nous serons dans notre exil sur terre. Bien sûr, il y a l'interprétation, disons, qui nous tourne plus davantage vers le ciel, ce qu'on appelle l'interprétation anagogique. Alors là, effectivement, cette libération, c'est aussi la vie après la mort, cette libération que le Christ nous amène, là où l'intimité avec Dieu sera pleine et entière, et là où nos larmes seront essuyées, comme le dit l'Apocalypse dans ses derniers chapitres. Mais je vous propose pour le commentaire linéaire l'interprétation qui me semble la plus intéressante pour nous, car elle nous rejoint dans notre vie quotidienne, celle, maintenant vous êtes peut-être familiarisé avec ce mot, l'interprétation morale ou tropologique. Alors reprenons le texte un petit peu morceau par morceau. Ce texte peut se diviser en deux parties, en voici la première. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Alors, ce qui est beau ici, c'est de voir que notre Dieu est un Dieu qui nous aime, comment dire, avec beaucoup de prévenance. Nous avons un Dieu très prévenant. Il prépare les choses pour nous. Il nous prépare de bonnes choses. Et là, nous avons une vision de la foi totalement différente de ce que beaucoup de gens croient. Beaucoup de gens s'imaginent que la foi chrétienne est triste, que se tourner vers Dieu, c'est un pas dans la tombe, au sens où c'est un pas vers la tristesse. Quelle vie triste, la vie chrétienne. Mais pas du tout, car notre Dieu est un Dieu de la fête. Dieu veut notre bonheur. Et ce qui est beau ici, dans ces analogies, dans ces images de viande grasse, de vin capiteux, ce sont des images qui parlent même à nous, hommes du XXIe siècle, et qui parlaient peut-être encore davantage aux hommes de l'époque du prophète. Donc ce sont des images qui parlent beaucoup, des images très concrètes. C'est une façon de nous montrer que Dieu nous aide, nous aime et veut nous rendre heureux jusque dans notre vie concrète et matérielle. Je ne dis pas que Dieu nous donnera de l'argent, mais dans notre vie de tous les jours, Dieu peut nous donner le bonheur. Dieu peut nous aider à gérer notre vie quotidienne. Ce n'est pas simplement le Dieu de l'au-delà, être heureux plus tard, mais Dieu nous offre le bonheur ici et maintenant. La vie chrétienne est une vie de fête dès maintenant. Donc remercions vraiment le Seigneur d'être aussi prévenant. Il nous installe vraiment toutes les conditions à notre bonheur. Mais c'est aussi un drame, parce que Dieu aime tout le monde, Dieu prépare un festin pour tout le monde, mais combien de gens vont vraiment y répondre ? Ça me rappelle un passage de l'Évangile où justement le roi invite les gens au festin de son fils et très peu répondent à l'invitation. Quelle tristesse ! Donc effectivement, Dieu aime. Ce n'est pas Dieu qui fait que les gens ne vont pas vers lui. Dieu aime tout le monde. Dieu prépare un festin pour tout le monde. Si les choses ne vont pas comme elles devraient aller, ce n'est pas Dieu le responsable. C'est surtout la réponse que fait l'homme à l'amour de Dieu qui, lui, est toujours là, toujours stable, toujours prévenant. Alors, notons aussi que, ici, les images aussi sont fortes. Le Seigneur enlèvera le voile de deuil, le linceul qui couvrait les nations, la mort pour toujours. Effectivement, la vie sans Dieu est une vie bien triste. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais allez dans une fête foraine, allez dans une boîte de nuit, en fait, quand vous grattez, il y a beaucoup de tristesse. Quand on gratte les apparences, on voit vite le vide, la vacuité d'une vie sans Dieu. Beaucoup de tristesse dans ces joies apparentes. Dieu seul peut nous donner la joie. Dieu seul peut sauver nos frères de la tristesse. Il faut en être convaincu. Nous détenons la clé du bonheur de nos frères parce que nous avons le Seigneur et nous avons la responsabilité de prier pour nos frères, de les aimer et éventuellement lui témoigner en parole, le tout pour vraiment aimer nos frères, le tout pour leur faire connaître le Seigneur. Il faut vraiment que notre vie soit tendue vers ce but. Nous devons faire connaître le Seigneur, car nous avons, je l'espère, expérimenté le fait que le Seigneur est ce Dieu de la fête, et nous savons que ce Dieu, cet amour prévenant, cet amour qui veut offrir le vin, qui veut offrir la viande grasse, est aussi pour nos frères qui souvent ignorent ce que le Seigneur peut faire dans leur vie. Et notre rôle, c'est de rendre visible le Seigneur par notre amour, par nos actes, par notre prière et éventuellement par un témoignage quand les circonstances s'y prêtent. Alors ensuite, nous avons le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Alors là aussi, l'image du Dieu qui essuie les larmes. Alors, ce festin, c'est quoi au juste, finalement? Eh bien, ce festin, c'est ce que Benoît XVI disait à propos de Jésus, que nous a apporté le Christ? Rien sinon Dieu, c'est-à-dire tout. Eh bien, nous devons être persuadés que ces viandes grasses, même si j'ai dit que Dieu pouvait nous aider dans notre vie quotidienne, mais avant tout, par-dessus tout, et au fond des choses, ce festa, c'est notre amitié avec Dieu. Ce Dieu qui peut, par son amour et son amitié, de tous les instants, essuyer nos larmes et nous donner le bonheur. Et vraiment faire que notre vie, au lieu d'être une succession parfois d'humiliations, de peines, soit vraiment une vie de joie. De joie, non pas forcément que les circonstances extérieures seront nécessairement meilleures ou bien meilleures, mais nous aurons une certitude, nous aurons vraiment une amitié, un amour. On le sait bien, les choses changent tellement quand on aime une personne. C'est Lamartine, me semble-t-il, qui disait « Un être vous manque et tout est dépeuplé ». Eh bien, je dirais qu'avec le Seigneur, tout ce peuple, la vie se transforme, l'arc-en-ciel apparaît et les couleurs apparaissent, fini le gris. C'est ça le festin. Le festin, c'est vraiment une amitié avec Dieu. Si nous ne le connaissons pas encore, ce festin, si nous n'avons pas encore cette joie, c'est peut-être que nous n'avons pas encore découvert que le Seigneur, que la vie chrétienne, c'est une histoire d'abord d'intimité, d'amitié, avec l'ami avec un grand A. Et quelle joie quand on sait qu'on est aimé infiniment par l'amour infini, par Dieu, tout simplement. C'est extraordinaire. Et en plus, cet ami, il est Dieu, donc il peut nous conseiller, il peut nous aider efficacement, même si cela ne correspond pas toujours à nos attentes. Et enfin, la dernière interprétation qu'on pourrait avoir, c'est par rapport à nos peines, mais aussi à nos frères. Il faut toujours être persuadé qu'en nos frères, il y a au plus profond d'eux-mêmes, leur vrai moi, c'est celui qui a soif de Dieu. Et il est comme prisonnier souvent des préjugés ou de l'hostilité que développent nos frères, de ces sécurités qu'ils se font, de ces barricades qu'ils se font, le tout basé sur des préjugés, le tout reposant sur des préjugés. Les gens se protègent de Dieu parce que fondamentalement, ils pressentent que Dieu c'est quelque chose de révolutionnaire dans leur vie. Et ils emprisonnent leur vrai moi, ils emprisonnent leur caractère en profondeur. Et ils se font une espèce de carapace. C'est un peu comme si ce vrai moi pleurait, était humilié par toutes ces carapaces que nous nous construisons. C'est un petit peu comme si ce moi, cette soif de Dieu dans nos frères était comme prisonnière. Alors on comprend mieux que le Seigneur nous promet qu'un jour, grâce à notre prière, grâce à notre amour, il pourra faire sauter tous ces verrous et alors nous pourrons partager vraiment la joie du moi de nos frères, celui du vrai moi, celui qui a soif de Dieu, qui pourra dire « Mon humiliation est effacée, voici mon Dieu, j'espère en lui, il m'a sauvé, oui, il m'a sauvé, exultons, réjouissons-nous. » Voilà, nous avons ce pouvoir vraiment de libérer nos frères de leur prison qu'ils se fabriquent eux-mêmes pour se barricader plus ou moins consciemment de Dieu. Et nous pouvons participer à cette libération qui fait qu'un jour ils diront, quand vraiment ce moi, cette soif de Dieu aura grandi jusqu'à leur conscience, ça s'appelle la conversion, ils pourront dire en toute conscience, en toute liberté, mon Seigneur m'a sauvé, je me réjouis, etc. Et cette humiliation dont on parle, ça s'adresse aussi à nous. Parce que trop souvent, nous savons que Dieu aime, nous savons que Dieu veut préparer des vins décantés, et nous voyons nos frères tourner le dos à Dieu. Eh bien, il faut avoir des larmes. Il faut vraiment s'humilier devant Dieu, c'est-à-dire prier humblement Dieu pour qu'il sauve nos frères. Et Dieu le promet. C'est lui qui l'a promis, lui, le texte. Il nous promet qu'il exaucera nos prières. Parce que s'il y a bien une prière que le Seigneur exauce, c'est celle que l'on demande quand on demande l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pour nos frères, c'est la conversion, et pour nous-mêmes, c'est toujours une plus grande amitié et un plus grand abandon à sa volonté. Eh bien, il nous le promet, le Seigneur. Si vraiment nous pleurons pour nos frères, si nous savons vraiment prier, les aimer, avoir soif de leur apporter le Seigneur, même si c'est en toute discrétion, simplement par la prière et l'amour, eh bien, soyons-en sûrs, cette prière sera exaucée. Un jour, l'humiliation disparaîtra, nous n'aurons plus besoin de prier. Et alors, nous pourrons dire en toute vérité, « Oui, le Seigneur nous a sauvés, il a sauvé mon frère, il m'a sauvé, et c'est en lui que j'espérais. Eh bien oui, j'ai eu raison, je me réjouis de la conversion de mon frère, je me réjouis de ma propre conversion. » Voilà, c'est intéressant de voir donc cette interprétation, toujours pleine d'espoir. Voyons, part de l'histoire, le peuple d'Israël qui souffre, qui espère en son Seigneur, qui le ramènera sur la terre promise, eh bien dans nos vies c'est transposable, dans la vie de nos frères. Nous aussi nous voyons des frères en exil, nous aussi nous sommes en exil, mais nous savons que un jour le Seigneur exaucera nos prières pour nos frères et pour nous-mêmes, et alors nous serons sur cette terre promise qui est tout simplement la conversion de nos frères, la découverte de leur part de ce qu'est l'amitié avec le Seigneur, et pour nous toujours une plus grande amitié avec Dieu, et qui éclatera en toute vérité après la mort, justement, qui sera détruite, parce que la mort ne sera plus la mort, mais tout simplement un passage vers ce festin où Dieu nous attend de l'autre côté. Mais ce festin commence déjà maintenant. Alors vraiment, oui, prions pour vraiment toujours pouvoir goûter le vin et la viande que le Seigneur nous prépare, car lui nous aime. C'est de notre réponse que dépend la fête. Et prions aussi pour nos frères, pour qu'ils répondent à la fête. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose de prier, si vous le voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Seigneur, oui, tu prépares la fête, tu nous aimes, ton amour est toujours là, tu nous tends la main, tu tends la main à nos frères, tu veux ce qu'il y a de mieux pour nous. Apprends-nous, Seigneur, à répondre, nous et nos frères, à cette main tendue. Oui, apprends-nous à te tendre la main en réponse à ta main tendue. Alors nous aurons le bonheur, nous aurons le festin. Nous découvrirons que tu es là, que tu nous aimes, que nous ne sommes jamais seuls et que tu veilles sur nous. Oui, Père, fort de cette espérance, nous prions, nous versons des larmes pour que nos frères soient libérés, pour que leur soif de Dieu soit pleinement reconnue. Oui, qu'ils s'ouvrent à toi, qu'ils laissent leur moi profond prendre les rênes, qu'enfin ils s'ouvrent à toi, Seigneur, pour que eux aussi goûtent à la libération, au festin. Oui, nous prions pour nos frères, pour que un jour ils puissent dire avec nous, voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.